Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le pape François invite l'Église à rajeunir et pointe du doigt une société où les jeunes sont orphelins de gratuité. Il s'exprimait lundi soir lors de l'ouverture du congrès ecclésial du diocèse de Rome. On y revient dès le début de ce magazine. Nous nous attarderons ensuite sur une autre intervention du pape, celle consacrée à l'éthique du travail de la magistrature. Le Saint-Père s'est adressé ce mardi à près de 300 membres du Conseil supérieur de la magistrature italienne. Vous entendrez également dans cette édition un psychiatre qui détaille les limites de la loi famille en France. Son examen a une nouvelle fois été reporté, sine die. Et puis témoignage d'un jésuite joint à Nairobi après les attaques meurtrières qui ont frappé la côte kényane. Bienvenue dans ce magazine. Le pape François a ouvert lundi soir au Vatican le congrès ecclésial du diocèse de Rome. Devant des milliers de fidèles, accompagnés de leurs prêtres, le Saint-Père a rappelé que l'Église devait être une véritable mère, l'invitant à rajeunir. Et il a développé une réflexion sur la société actuelle, où les jeunes sont souvent privés d'espérance. Bernard de Cotigny.
Dans un long discours, le pape a tout d'abord décrit le quotidien de nombreux parents. Nous vivons des vies accélérées, des journées convulsives, accompagner les enfants à l'école, au travail, où l'on vit parfois des tensions, se retrouver dans les embouteillages avant de rentrer chez soi. Parfois, a-t-il ajouté, on sent un poids qui nous écrase et on s'interroge, est-ce cela la vie ? Et mentionnant les lettres qu'il reçoit d'hommes et de femmes désorientés, il a déploré le manque de mémoire de famille. Les grands-parents sont éloignés en maison de retraite, les parents sont pressés, ils aiment, mais trop rapidement leurs enfants, sans prendre le temps de jouer avec eux. Le Saint-Père a alors pointé du doigt une société où les jeunes sont orphelins d'un chemin sûr à suivre et d'espérance. Notre société est une société d'orphelins de la gratuité, a-t-il insisté, dénonçant en faisant référence aux 40% de chômage des jeunes en Italie, une société qui renie aussi ses enfants. Nous n'avons pas besoin de remplir la vie de choses qui ensuite deviennent des idoles, a-t-il assuré, mais nous avons besoin que Jésus nous regarde. Il a alors appelé l'Église à devenir mère et non pas une ONG bien organisée. Nous avons certes besoin de plans pastoraux, a-t-il précisé, mais ce n'est pas l'essentiel. Ils sont une aide à la maternité de l'Église. Notre mère l'Église a un peu vieilli, a constaté le pape avant de lancer. Il faut la rajeunir, pas en l'amenant chez le chirurgien esthétique, mais en lui donnant des enfants qu'il faudra accueillir avec tendresse.
Un discours dans lequel le pape semblait tracer le portrait de l'homme postmoderne, pour qui la réalité ne serait plus qu'unidimensionnelle, comme l'écrivait le philosophe allemand Herbert Marcuse. Écoutons à ce propos le professeur Hans-Christoph Ascani, professeur de philosophie systématique et vice-doyen de la faculté de théologie de l'Université de Genève.
L'autre jour, quand j'ai voulu encourager une de mes filles à travailler un peu plus à l'école, elle m'a répondu, « Tu sais, moi je ne veux pas vivre de cette manière. Travailler du matin au soir à l'école pour avoir une place à l'université, travailler du matin au soir à l'université pour avoir un métier, travailler du matin au soir dans mon métier pour arriver finalement à la retraite et ne plus savoir quoi faire. » Je trouve qu'elle a vu quelque chose. L'homme moderne et postmoderne a la tendance de réduire la réalité à une seule dimension, comme Marcuse l'a dit. Cette dimension peut porter plusieurs noms, et ça revient presque au même. Le succès, l'argent, la croissance, le progrès, le plaisir, à toutes ces valeurs, il y a une caractéristique commune. Elles apparaissent à première vue comme convaincantes, et à deuxième vue, on s'aperçoit qu'elles sont un peu vaines. De temps en temps, j'ai l'impression que nous travaillons comme des fous pour ne plus devoir nous poser la question « Mais pourquoi ? Quel but voulons-nous atteindre avec ce travail ? Quel but voulons-nous atteindre dans notre vie ?» Bref, tout ce qui excède, tout ce qui dépasse cette unidimensionnalité, nous l'excluons. La maladie, la faiblesse, la mort, mais aussi le bonheur, les grandes questions, la reconnaissance mutuelle, l'aventure de la vie humaine partagée, le regard d'un autre être qui a besoin de nous et qui touche au-delà de tout calcul de récompense, au-delà de toute utilité, qui nous regarde, qui nous saisit.
Le professeur Hans Christoph Ascani, interrogé par Gabriel et Palachano. Pour la 10e année consécutive, une veillée de prière pour le pape François et pour son pontificat se tiendra place Saint-Pierre dans la soirée du 20 juin prochain. Cette initiative, organisée par le mouvement de l'amour familial, sera présidée par le cardinal Angelo Comastri, vicaire général du pape pour la Cité du Vatican. Unissons-nous autour de l'évêque de Rome, sa figure et son rôle de chef de l'Église universelle et pasteur humble et aimant du peuple de Dieu, invite le site internet de l'association, basée dans le diocèse de Rome. Au programme, la récitation du chapelet et une procession au flambeau suivie d'un chant et d'un salut adressé au Saint-Père. L'éthique du travail de la magistrature, c'est sur ce thème que le pape François s'est attardé ce mardi en recevant au Vatican près de 300 membres du Conseil supérieur de la magistrature italienne. L'occasion pour le Saint-Père de souligner la dimension éthique du travail de la magistrature. Dans chaque pays, les normes juridiques sont destinées à garantir la liberté et l'indépendance du magistrat afin qu'il puisse mener avec les garanties nécessaires son important et délicat travail. Les précisions de Xavier.
Prudence, impartialité totale, discernement et objectivité, ce sont les qualités que doivent posséder ces magistrats dont la mission revêt une importance particulière. Leur travail doit se baser uniquement sur la juste norme juridique et répondre à la voix d'une indéfectible conscience qui se fonde sur les valeurs fondamentales, affirmait le pape. La certitude du droit et l'équilibre des différents pouvoirs d'une société démocratique, a-t-il ajouté, trouvent leur synthèse dans le principe de l'égalité. Revenant sur la prudence, le pape a expliqué qu'il s'agissait d'une vertu qui porte à peser avec sérénité les raisons de droit et de fait qui doivent se trouver à la base du jugement. Et la prudence est certes plus grande si l'on possède un équilibre intérieur, capable de dominer les poussées provenant de son propre caractère, de ses vues personnelles ou encore de ses certitudes idéologiques. Parlant de la société italienne, mais valant pour de nombreuses sociétés, le pape a expliqué qu'elle attendait beaucoup de la magistrature, spécialement dans le contexte actuel caractérisé entre autres par un appauvrissement du patrimoine des valeurs et par l'évolution des fondements démocratiques. Le pape a donc exhorté les membres du Conseil supérieur de la magistrature à ne pas décevoir les attentes légitimes des gens, d'être des exemples d'intégrité morale pour toute la société.
Xavier Sartre. Le corrompu irrite Dieu et fait pécher le peuple. C'est ce qu'a indiqué le pape François lors de la messe célébrée ce mardi matin en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Pour les corrompus, a précisé le Saint-Père, il n'y a qu'une seule voie de sortie, demander pardon, car autrement ils rencontreront la malédiction de Dieu. Lorsque quelqu'un entre dans la voie de la corruption, il enlève la vie, usurpe et se vend. C'est comme s'il arrêtait d'être une personne et devenait une marchandise à vendre et acheter. Pour plus de précisions, je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.radiovaticana.va. La française Anne-Marie Pelletier, spécialiste de l'herméneutique et de l'exégèse biblique, sera la première femme à recevoir le prix Ratzinger, une distinction qui lui sera décernée le 22 novembre prochain, en même temps que celle remise au prélat et théologien polonais Waldemar Schrotowski. C'est ce qu'a indiqué ce mardi le comité scientifique de la Fondation Vaticane Joseph Ratzinger Benoît XVI en présentant les lauréats du Nobel de la théologie. Anne-Marie Pelletier obtiendra des mains du pape François le prix Ratzinger pour ses travaux sur l'herméneutique, l'exégèse biblique, mais aussi pour s'être dédié à la question de la femme dans le christianisme et dans l'Église. C'est ce qu'a précisé devant les journalistes le cardinal Camillo Ruini, président du comité scientifique de la Fondation. L'examen de la loi famille en France a une nouvelle fois été reporté sine die. Les discussions concernant ce texte qui porte sur l'autorité parentale ont été interrompues dans la nuit de lundi à mardi, les débats ayant été retardés par de nombreux amendements déposés par l'UMP. Faute de temps, le vote a été ajourné à une date ultérieure qui n'a pour le moment pas été fixée. 9 heures après l'ouverture des débats, il restait encore 207 amendements examinés sur les 700 déposés. Plusieurs élus UMP se sont réjouis de ce report. Bonne deuxième manche pour ce texte décidément mal engagé, s'est ainsi félicité sur Twitter le député UMP Philippe Gosselin en pointe sur les questions de famille. Les élus de gauche ont une nouvelle fois déploré l'obstruction caractérisée de l'UMP. Le débat avait repris lundi après-midi, là où il avait été arrêté dans la nuit du 21 au 22 mai. C'est donc la deuxième fois que l'examen et le vote de cette proposition de loi sont reportés. Mais au-delà des clivages politiques, qu'en est-il de l'intérêt de l'enfant? Des milliers de professionnels de l'enfance mettent en garde contre les limites de ce texte. Ils ont signé une pétition contre la garde alternée systématique en cas de séparation, estimant qu'elle est inadaptée aux besoins des enfants. Parmi les signataires, le psychiatre Pierre Lévy-Soussan, expert auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il s'attarde sur les points du texte qui vont, selon lui, à l'encontre de l'intérêt de l'enfant.
C'est une loi qui est extrêmement préjudiciable à l'intérêt de l'enfant. Dans bon nombre de ces propositions, il faudrait être très très clair et vigilant par rapport aux risques qu'une telle loi représente.
Quels sont, selon vous, dans ce texte, qui est aujourd'hui une version à minima du projet abandonné en février dernier, les points les plus contestables du point de vue de l'intérêt de l'enfant ?
C'est cette double résidence d'une façon égalitaire par rapport au père et à la mère. Ce qui, pour les enfants de moins de 6 ans, pose un réel problème. Étant donné que la résidence alternée dont cette loi veut être véritablement le proposer quasiment systématiquement, ou en tout cas le généraliser, n'est absolument pas adapté, d'une part aux enfants de moins de 6 ans, et en cas de conflit. Donc déjà ça, c'est vraiment quelque chose qui pose un réel problème. C'est une notion arithmétique, égalitaire et paritaire entre le père et la mère est tout à fait illusoire par rapport à l'enfant. C'est quelque chose qui ne tient pas compte de son intérêt, où il a des besoins très asymétriques, très complémentaires entre père et mère. Ça ne veut pas dire que le père n'est pas important, mais ça veut dire que chacun a un rôle particulier à jouer en fonction de l'âge de l'enfant, et que ne pas tenir compte de cette logique, hein, en particulier pour les bébés, en particulier pour les enfants plus jeunes, c'est quelque chose qui peut totalement perturber le développement psychique d'un enfant.
N'y a-t-il pas moyen de concilier intérêt de l'enfant tout en prenant en compte, entre guillemets, le nouveau panorama familial ?
C'est très compliqué dans le climat politique actuel, c'est-à-dire le grand problème que nous regrettons comme psychiatres, c'est que la politique se soit emparée de ces problèmes-là. Et donc, il y a des dérives politiciennes, aussi bien à droite qu'à gauche, qui font que on ne peut plus discuter sereinement de ces questions-là, et en particulier de l'intérêt de l'enfant, qui est instrumentalisé tantôt par les uns, tantôt par les autres. Donc nous, on regrette bien entendu ces dérives purement politiciennes de cette loi, étant donné qu'on a beaucoup de mal justement à faire entendre l'intérêt de l'enfant, les logiques psychiques qui gouvernent à son développement dans ce contexte-là.
Les professionnels de l'enfance ont donc un rôle fondamental à jouer. Ils sont en quelque sorte des garde-fous.
Ils devraient peut-être l'être, mais ils ne l'ont jamais été. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu cette première loi en 2002, ils n'ont absolument pas été consultés. Et déjà là, il y avait la dérive actuelle, hein, en consacrant la résidence alternée en cas de conflit. Donc déjà là, c'était une très très mauvaise compréhension et application d'une solution qui n'a d'indication que dans certains cas. Et deuxièmement, justement, dans ce climat-là législatif, toute prise de position est très très souvent récupérée d'une façon politique. Là encore, ce que nous regrettons. Donc il est très très difficile de se faire entendre, de faire entendre la voix de l'enfant auprès d'adultes en colère, revendiquants et très idéologiques.
Vous avez le sentiment que ce texte tient compte de l'intérêt des adultes plutôt que celui de l'enfant ?
Oui, bien sûr, c'est une loi compassionnelle qui est faite sous le coup de groupes de pression et de lobbying extrêmement puissants et qui font les lois. Donc c'est avant tout une loi pour les adultes et absolument pas pour les enfants. Sans ça, on serait pas 8000 pétitionnaires, psychiatres, pédopsychiatres et autres spécialistes de l'enfance à se mobiliser contre ce projet de loi. à chaque fois que la loi se mêle de la famille, on devrait être extrêmement prudent et y aller vraiment après avoir bien compris les enjeux. Le problème, c'est que ces lois passent toujours d'une façon très rapide, sont toujours très mal rédigées, sont toujours bâclées à la 6-4-2, et donc ça n'est jamais des lois qui ne tiennent compte justement des intérêts complexes, multiples, et de la place de la mère et de la place du père, en raison justement des prises de position très idéologiques et très politiques dont l'enfant fera toujours les frais. Il est vrai que la période actuelle est une période où les adultes veulent comme cela consacrer un certain nombre de choses en oubliant les évidences qui peuvent se poser pour un enfant et les problèmes que peut affronter l'enfant dans ce monde en mouvement, parce que ce n'est pas parce que ce monde est en mouvement qu'il ne faut pas légiférer, bien au contraire, mais on ne doit pas oublier les besoins fondamentaux de l'enfant dans ce monde en mouvement.
Le psychiatre Pierre Lévy-Soussan, expert auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat. Direction à présent le Kenya, frappé par plusieurs attaques meurtrières. Un nouveau raid a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi sur la côte kenyane. Des hommes armés ont attaqué le village de Poromoko. C'est la deuxième attaque en moins de 48 heures, perpétrée dans la même zone, à une centaine de kilomètres de la frontière somalienne. Au total, près de 60 personnes ont été tuées, dont de nombreux chrétiens. Les Chebabs qui ont revendiqué ces tueries menacent aussi de s'en prendre aux touristes. Nous avons joint un héros le père Rigobert Minani, coordinateur de l'apostolat social jésuite en Afrique.
Les cibles, ce sont les institutions de l'État. Donc c'est une guerre contre l'État kenyan, ce n'est pas vraiment contre les chrétiens comme tels, même si les chrétiens sont les premières victimes et qui sont généralement, on les choisit parmi tant d'autres. Mais les chrétiens ne sont pas une cible directe, non. Les gens se posent quand même beaucoup de questions. Parce que le gouvernement kényan dit qu'il allait renforcer la sécurité un peu partout, mais il se fait que, par exemple, avant-hier, l'attaque, il a fallu plus de 6 heures pour que l'armée et la police n'interviennent, alors que il y avait quand même des postes de police et d'armée dans les 30 kilomètres autour du village où il y avait eu une attaque. Alors, il y a beaucoup de questions aujourd'hui sur l'efficacité de l'armée kényane pour se battre contre l'Al-Shabaab. On voit bien qu'ils ne parviennent pas à être à la hauteur.
Pourtant, les autorités kényanes ont lancé une vaste opération antiterroriste depuis quelques mois.
Oui, ils ont multiplié les contrôles, ils ont multiplié les checkpoints, mais manifestement, leurs ennemis connaissent bien leur modus operandi et agissent et frappent là où ils ne sont pas. On voit que, par exemple, maintenant, ça semble bouger. Avant, c'était à Nairobi où il y avait un certain nombre d'attaques. Maintenant, à Nairobi, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Les Al-Shabaab frappent vers la partie est. Ce n'est pas une guerre facile à pouvoir gagner, d'autant plus que la population somalie, elle est quand même mélangée avec la population kenyane. Vous avez des Somalis kenyans, donc c'est très très difficile de pouvoir faire la différence qui est Al-Shabaab et qui ne l'est pas.
Les Chebabs s'en prennent véritablement à l'ensemble de la population. Ce sont des opérations qui visent à intimider, qui visent à imposer leur autorité.
Oui, je pense qu'ils veulent créer un choc pour avoir un certain nombre de comportements qu'ils attendent du gouvernement kenyan. Et jusqu'à présent, on a l'impression que aborder cette question seulement sur le plan sécuritaire, militaire, ne semble plus être suffisant. Il faut qu'on ouvre d'autres voies, d'autres possibilités.
Quelles sont, selon vous, ces autres voies qui doivent être empruntées?
Il est important que le gouvernement kenyan, à mon avis, sollicite la collaboration des communautés dans lesquelles se mêlent ces populations-là pour qu'elles puissent se distancier de ces groupes-là. Il faut donc une meilleure communication avec la communauté somalie, il faut une meilleure communication avec les imams, avec les jeunes dans les mosquées, pour permettre à ce qu'on puisse démasquer. Parce que de toutes les façons, les groupes terroristes sont une minorité et ils profitent souvent d'une certaine collaboration ou d'une couverture de la grande masse des gens. Alors les gens qui sont ciblés, qui payent les prix, c'est souvent la grosse communauté musulmane qui, elle, n'a rien à voir avec un groupe comme celui-là. Donc sans un travail communautaire, il est impossible de gagner ces combats.
Le père Rigobert Minani joint à Nairobi un témoignage à retrouver sur notre site internet. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie.